Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado d'Option Consommateurs qui pose un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Spear, je suis votre animatrice et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode. Je souhaite également la bienvenue pour une première fois à Luis Pineda, analyste en consommation chez...
Exactement.
Salut, chez Option Consommateurs. Allô. Première fois au balado, bienvenue. Comment tu te sens?
Très bien, content d'être ici.
Excellent. Donc, tu voulais parler des interfaces truquées. C'est quoi? J'ai aucune idée, c'est quoi?
Exactement. On va parler aujourd'hui des interfaces truquées, ce qui est connu en anglais comme des dark patterns ou des deceptive patterns.
OK.
Et j'ai pu commencer pour expliquer un peu, pour donner une brève définition de c'est quoi les interfaces truquées. Les interfaces truquées, ce sont des interfaces qui ont été conçues et pour mener les consommateurs à se tromper. Ce sont plus concrètement des interfaces soigneusement conçues pour que les consommateurs prennent une décision qui est indésirable, qu'il ne voudrait pas prendre s'il avait toutes les conditions, toutes les informations. J'ai pu te donner 12 exemples pour nous faire bien une idée de c'est quoi les interfaces truquées. Tout d'abord, on va parler de nagging, c'est-à-dire l'effet de recevoir une demande de manière répétitive. Alors, par exemple, un consommateur vient de descendre d'une voiture, d'un taxi, il paye sa facture et les pourboires. Une minute plus tard, ce consommateur va recevoir une notification où on lui demande de donner un pourboire. Son premier réflexe, c'est de se dire « Ah, peut-être ça n'a pas bien marché la première fois, alors je vais bien payer les pourboires cette fois. » Quand il regarde la facture à la fin, les reçus, il va se rendre compte du fait qu'il a payé les pourboires 2 fois. Alors, et là, on parle de nagging, non? Les demandes répétitives de faire une chose encore et encore, des notifications qui demandent toujours de faire la même chose.
Mm.
Un autre exemple pourrait être la culpabilisation ou confirm shaming, c'est-à-dire l'utilisation d'un langage émotionnel pour faire que le consommateur prenne une certaine décision qui n'est pas la meilleure pour lui ou pour elle. Par exemple, une consommatrice est en train de naviguer sur un site web de fourniture médicale. Et dans le processus d'achat, elle va recevoir un message où on lui demande si elle veut ou pas recevoir des notifications. Pour accepter de recevoir des notifications sur les nouveaux produits de fourniture médicale, elle doit cliquer sur « Autoriser ». Et pour décliner, pour refuser, la formulation du message qui apparaît, c'est « Non merci, je ne veux pas rester vivante ». Là, on voit, et ça c'est un exemple réel.
Ben non.
Oui, c'est un exemple réel.
Oh mon Dieu.
Et effectivement, on voit qu'il y a encore une interface truquée parce qu'on cible les cœurs, les sentiments de la personne.
Oui.
Et je pourrais continuer à donner encore et encore des exemples. Mais
oui, même ton premier exemple, là, je comprends qu'on ne veut pas nommer d'entreprise, mais je pense que j'ai déjà reçu ça. Je veux juste clarifier une certaine chose. Le nagging, c'est de recevoir des demandes répétitives, mais est-ce que quand tu dis des demandes répétitives, c'est quand même la même entreprise qui nous contacte ou c'est par exemple un fraudeur qui se rend compte qu'on a pris un taxi, donc il en profite pour nous envoyer une alerte?
C'est la même entreprise.
OK,
c'est
OK,
la
je
même
comprends.
Entreprise.
OK, donc oui, je sais très bien de quoi on parle à ce moment-là. Parfait.
Et on peut se demander pourquoi les interfaces truquées sont si efficaces. Et je vais devenir brièvement un petit peu théorique pour expliquer ça. Et
c'est pas de souci.
Et les concepteurs, les personnes qui font les designs de ces sortes d'interfaces truquées utilisent les vulnérabilités des consommateurs. Et ces vulnérabilités sont connues par la psychologie expérimentale comme des biais cognitifs.
Mmh.
Alors, c'est là où je vais expliquer un peu l'élément théorique. Auparavant, les économistes pensaient que les consommateurs étaient un agent rationnel. C'était le modèle de l'agent rationnel, c'est-à-dire un consommateur qui prenait toujours la meilleure décision et une décision sage, bien réfléchie et convenable toujours pour lui et dans tous les sens et surtout dans les sens économiques. Mais ce que la psychologie expérimentale a démontré est que précisément les consommateurs prennent des décisions à partir des biais cognitifs, c'est-à-dire des limitations. Par exemple, Et on ne prend pas une décision de la même manière si on a des limitations dans la rationalité, par exemple, si on est fatigué. Et on ne prend pas la même décision si on n'a pas toutes les informations ou si on est pressé, si on n'a pas de temps. Il y a aussi des raccourcis mentaux. Et quand on veut accepter un contrat, on ne lit pas tous les contrats, même si ce n'est pas très raisonnable de ne pas lire tous les contrats. Alors là, on voit qu'il y a comme des limitations toujours dans la prise de décision des consommateurs. Et c'est ça précisément ce qui est utilisé par les concepteurs des interfaces truquées.
Puis pourquoi est-ce qu'on fait pas toujours, pourquoi est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui est raisonnable? C'est quoi que la psychologie justement démontre?
Qu'on choisit toujours avec des limitations, par exemple, et on pourrait se dire, ah oui, je vais toujours tout lire avant de prendre une décision, mais c'est impossible.
Ben, c'est ça.
C'est impossible.
Tu sais, c'est même pas raisonnable à un certain point.
Ce n'est même pas raisonnable.
Ben, j'ai l'impression, à une époque où on vit, si tu es un consommateur parfait, sa job, c'est d'être consommateur à temps plein parce qu'on doit tellement penser à tout. Là.
Exactement. Alors, c'est ça un peu la grande efficacité de ces sortes d'interfaces truquées, de jouer sur des limitations réelles du consommateur, de la consommatrice moyenne.
Est-ce que tu as des exemples de biais cognitifs?
Oui, on peut parler de nombreux exemples de biais cognitifs.
T'en as nommé quelques-uns, je pense, sans nécessairement utiliser leur terme scientifique. Là.
Et maintenant, on va donner des exemples avec l'interface truquée qui est liée à chaque biais cognitif ou chaque vulnérabilité. On peut commencer par la vulnérabilité de compréhension, c'est-à-dire les limites, par exemple, de littératie, les limitations de calcul et les limitations de mémoire ou de pensée critique qui ont les consommateurs. On peut parler là de 12 exemples. Et les frais cachés, c'est une sorte d'interface truquée liée à cette vulnérabilité dans la compréhension. L'exemple le plus clair avec les pourboires. Parfois, ou d'habitude plutôt, on voit les pourboires qui disent 15%. Mais si on fait vraiment le calcul du montant qui est lié à cette 15%, comme ça inclut les taxes, en réalité, 15% n'est pas 15%, mais 17,25%. Et là, on tombe encore et encore, tout le temps, dans cette sorte de piège qui est l'interface truquée. En termes de littératie, et on peut dire la même chose. Et certaines interfaces utilisent la double négation, par exemple. Et je n'ai vu pas refuser de partager mes données personnelles. On doit cocher oui ou non. C'est très difficile à savoir.
Oui.
Alors là, on parle d'une formulation astucieuse ou verbeuse.
Ouais, puis mixe à ça le fait qu'il est tard le soir, puis que tu fais de l'insomnie, puis que tu es sur ton téléphone, puis que tu arrives là-dessus par hasard sur ce site-là. Ouais.
Exactement. Et une autre vulnérabilité, c'est la vulnérabilité perceptive, c'est-à-dire jouer avec la taille des mots ou jouer avec les contrastes et dans la plateforme, oui, ou dans l'interface. Par exemple, naturellement, si la taille des mots est plus petite, c'est plus difficile à lire, ou quand le contraste entre les textes et l'arrière-fond est accru, c'est plus facile à lire, mais si le contraste est faible, ça sera plus difficile à lire. Encore avec les pourboires, on peut donner des exemples. Et l'option « autre » est camouflée ou cachée, il faut faire vraiment des efforts pour les trouver. Et en termes de partage de données personnelles, et c'est très difficile de trouver l'option qui protège le mieux les consommateurs. Là, on parle d'une interférence visuelle, c'est ça le nom de cette vulnérabilité. On peut continuer avec un autre biais cognitif qui s'appelle l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage consiste en un phénomène psychologique selon lequel on se fie et au premier chiffre qu'on voit, à la première information qu'on reçoit, on fait des estimations à partir de ça. Par exemple, un restaurant va offrir dans la première page du menu des plats très chers. Comme la personne, le consommateur est ancré avec cette information, il va se dire si dans la 12e page, 3e page, 4e page du menu, les plats sont moins chers, le consommateur va se dire « Ah, ce n'est pas si cher que ça », parce qu'il est ancré avec la première page. Mais si on compare avec d'autres restos, c'est encore très cher. avec les pourboires, l'exemple est aussi très clair. Et à côté d'un pourcentage de 25, de 30%, on s'est dit, à 20% de pourboires, ce n'est pas si cher que ça.
Ouais.
Mais c'est quand même très cher. Là, on joue avec l'effet d'ancrage. Un autre exemple de biais cognitif, c'est l'effet des groupes. C'est que parfois, l'individu fait ce que le collectif lui exige ou ce que le collectif propose. Ou, autrement dit, on fait ce que les autres font parce que les autres le font. Alors, là, c'est une interface truquée où, par exemple, on est en train de magasiner sur un site web, on clique sur une chemise, et quand je clique sur la chemise, juste pour voir la taille, la couleur, etc., et une notification va apparaître et va dire « Et 9 personnes viennent d'acheter cette chemise. » Ou « Il ne reste que 3 chemises en stock. » Là, on joue, d'habitude, ce sont des fausses informations et on joue avec cet effet de groupe de se dire « Tout le monde est en train d'acheter ça, je vais l'acheter tout de suite.
»
Là, dans la même ligne, c'est l'exemple de faux témoignages. Quelqu'un écrit « J'ai vraiment adoré cette chemise » et il y a plusieurs témoignages comme ça. Quand ce sont des faux témoignages, ça va avoir des influences sur les consommateurs, il ou elle va acheter et ça va créer des dommages aussi à niveau économique.
Définitivement. C'est vraiment miser sur la vulnérabilité du consommateur, sur ses failles.
Exactement. Et l'autre exemple bien connu, c'est l'effet par défaut. Quand une option est choisie par défaut, est déjà sélectionnée, l'interface truquée s'appelle présélection, une option présélectionnée. La littérature scientifique est très claire dans le sens que tout le monde va choisir systématiquement ça. Alors, si on met l'option par défaut 20%, et la plupart des gens vont choisir ça. Pourquoi? Parce que ça épargne du temps, des énergies, et ça rend la chose plus facile.
Ben oui.
Et si tu veux, j'ai pu continuer avec quelques exemples avant de voir quelles sont les conséquences qu'il y a tout ça pour les consommateurs. On peut parler, par exemple, de l'effet de cadrage, qu'il ne faut pas mélanger avec l'effet d'ancrage. L'effet de cadrage consiste à dire qu'une formulation, si elle est faite de manière positive, c'est-à-dire qu'on gagne quelque chose, ou de manière négative, qu'on perd quelque chose, ça va avoir des effets différents. Alors, par exemple, parfois dans les plateformes de livraison alimentaire, ils demandent les pourboires avec une petite formulation négative en termes de perte, où ça dit, si vous ne donnez pas de pourboire, probablement votre produit ne sera pas livré ou le service ne sera pas de bonne qualité. Ou une formulation positive avec une nouvelle technologie, ça c'est très utilisé par les grandes compagnies technologiques, et c'est d'offrir un nouveau produit, par exemple la reconnaissance faciale. On montre tous les aspects positifs de la reconnaissance faciale. Ça va rendre la vie plus facile, c'est novateur, c'est plus rapide, mais on ne parle pas du tout de tous les risques associés à ces sortes de...
D'identification.
Exactement.
Okay.
Alors, encore, on voit des problèmes. Et pour finir, je pourrais parler de trois derniers cas. Et, par exemple, la vulnérabilité de l'exploitation des attentes. Par exemple, universellement, on sait que les symboles des cadenas... Ça veut dire protection, ça veut dire quelque chose qui est sécuritaire.
OK, on a un cadenas, par exemple, à côté de HTTPS, et on a un petit cadenas, deux barres, dans la barre d'URL. Okay.
Exactement. Ou quand on nous offre des options de partage de données personnelles, si on met un cadenas à côté d'une option, on va se dire, ah, mais ça va me protéger. Mais en réalité, c'est trompeux parce que c'est précisément l'option qui protège les moins.
Ah ouais.
Alors, on exploite les attentes naturelles de tout le monde parce que c'est un peu des choses...
C'est sûr, c'est universel pour tous. Un cadenas, ça veut dire que c'est en sécurité. C'est pour...
Exactement. Okay. Ou un X qui signifie oui. Ou un X, on veut cliquer sur X pour fermer ça et ça va ouvrir une publicité.
Oui.
Encore une fois. Et on peut parler aussi des biais de modération ou de dépendance. C'est-à-dire... comment on utilise des techniques pour faire que la personne développe on rend plus aiguë la dépendance à certaines plateformes. On les connaît très bien avec la reproduction automatique ou avec les défilements infinis.
Ouais.
On s'est dit, on arrive fatigué à la maison et on s'est dit, je vais passer 5 minutes sur les réseaux sociaux et une heure plus tard, on est encore en train de faire les défilements infinis. Ça, c'est encore une technique d'interface.
J'ai déjà entendu dire que le fait que les réseaux sociaux ont roulé comme ça, c'était pour faire comme les machines dans un casino. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai, c'est exactement comme ça. La personne qui a inventé ça a regretté même.
Donc, si tu as une certaine dépendance aux réseaux sociaux, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour toi à un casino.
Exactement. Okay. Et en fait, il y a des études qui démontrent que les enfants qui ont grandi avec ces sortes de plateformes et qui jouent ces sortes de jeux en ligne et tout ça, ils vont avoir plus de probabilités de développer des dépendances.
C'est triste comme recherche, mais exactement. C'est mieux de le savoir que d'être dans l'ignorance.
Et la même chose, par exemple, avec la reproduction automatique. Et on s'est dit, je vais regarder un épisode d'une série. Et on finit pour regarder 3-4 épisodes parce que ça reproduit à la fin, de manière automatique, l'épisode suivant.
Oui.
Et pour
coupable.
Finir...
Très coupable.
Et pour finir, on peut parler de l'action forcée. C'est-à-dire que la plateforme va t'offrir quelque chose que tu veux, que tu désires, mais à condition que tu fasses une autre chose. Encore une fois, les plateformes de pouvoir sont un bon exemple. Pourquoi? Parce que parfois, on veut payer avec cash et on ne peut pas le faire et il faut mettre toujours, ou même si on peut le faire, il faut toujours émettre ou ajouter les données de la carte de crédit, les informations numériques et tout ça. Et ça va servir à la plateforme à transformer les clients en clients réguliers, en plus de prendre beaucoup de données personnelles. Alors là, on voit comme une série de biais cognitifs. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter là. Je crois que l'idée est claire de c'est quoi les biais cognitifs. Maintenant, on peut passer à expliquer pourquoi il y a une utilisation si systématique et si généralisée de ces sortes d'interfaces. Parce que c'est sûr que la plupart des consommateurs qui vont nous écouter vont reconnaître beaucoup de ces interfaces truquées. Alors, pourquoi c'est si généralisé, si systématique l'utilisation? Parce que c'est de très facile accès. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une grande compagnie technologique, il ne faut pas avoir une grande compagnie avec des plateformes en ligne pour avoir accès aux interfaces truquées. On peut les acheter très facilement sur Internet comme application, comme plugin, pop-up. Par exemple, il y a deux qu'on peut acheter facilement, les comptes à rebours ou une notification qui dit, quand on navigue sur un site, qu'on clique, comme j'ai donné l'exemple, qu'on choisit la chemise ou les pantalons et que ça va dire 9 personnes viennent d'acheter. On peut, 9 personnes viennent d'acheter ce produit et ça va m'inciter à l'acheter vous avez 5 minutes pour utiliser cette promotion. Il y a des applications qui ont pu acheter pour inclure ça dans mon petit commerce en ligne.
Mais c'est fou, j'aurais jamais cru que les fameuses notifications de 9 personnes ont acheté ça en même temps que vous, c'était pas vrai.
Parfois, c'est ça, parce que ce sont des fausses informations. Si tu rentres 10 minutes plus tard encore, les mêmes messages, ou 12 jours plus tard, les mêmes messages vont apparaître. Alors là, ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est si généralisé. Deuxièmement, ce sont des techniques qui se transforment tout le temps, qui sont utilisées de manière mixte, qui sont... c'est-à-dire, on ne va jamais trouver une plateforme en ligne qui utilise un seul type d'interface truquée. Ils vont utiliser plusieurs types d'interface truquée. Alors, c'est pour ça qu'on les reconnaît et un peu partout. Mais il faut faire aussi attention. Pourquoi? Et c'est le troisième élément de comment c'est déjà généralisé, comment ça va devenir encore plus généralisé.
Oui.
Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle et les algorithmes, ça va devenir de plus en plus difficile à identifier les interfaces truquées. La subtilité va être encore plus accrue. Et il y aura des difficultés et c'est aussi envisageable qu'avec l'intelligence artificielle et les données des personnes, on arrive à un moment où les plateformes vont identifier quelles sont exactement tes vulnérabilités ou tes biais cognitifs les plus aigus et ils vont t'envoyer des infrastructures spécifiquement pour toi. Alors ça, c'est un phénomène qui démontre un peu et comment c'est grave et à quel point ça pourrait devenir encore plus généralisé, même si c'est déjà assez généralisé.
Ben oui, mais c'est un sujet dont tu sembles vraiment très connaisseur. Toi, est-ce que tu te spécialises un petit peu là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui tient autant à cœur?
En fait, je suis arrivé ici à ces sujets un peu par hasard parce que je travaille présentement sur deux recherches options consommateurs. La première, c'est sur les pourboires. Et la deuxième, c'est sur les métavers. Et j'ai découvert qu'il y avait un élément qui liait les deux recherches. Et ce sont les interfaces truquées. Parce que les interfaces truquées sont très utilisées pour demander les pourboires, mais aussi très utilisées en termes de collecte de données. De demander du consentement entre guillemets pour partager les données personnelles. C'est comme ça que je suis arrivé un peu à ces sujets.
Mais je comprends que les interfaces truquées sont vraiment présentes. C'est quoi les conséquences sur les consommateurs?
Et on peut parler de trois grandes conséquences. La première, en termes de temps, c'est une perte de temps pour les consommateurs. En termes de dépendance, oui, on a parlé des filements infinis. Mais aussi en termes, par exemple, de tous les efforts qu'un consommateur doit faire pour annuler une souscription qui a été très facile à inscrire, à souscrire. Là, c'est une perte énorme de temps, mais ça va créer une détresse chez les consommateurs. Deuxièmement, des conséquences en termes de données personnelles. Ce sont des données personnelles que les consommateurs vont consentir de manière trompeuse qui va avoir des grandes affectations pour lui ou pour elle, pas seulement si dans les cas d'un piratage de la plateforme, mais aussi pour les consommateurs va commencer à recevoir la publicité ciblée. Alors ça encore crée beaucoup de frustration. Et finalement, on peut parler des conséquences économiques, autant pour l'individu qu'au niveau social. Pour l'individu, on va dépenser évidemment plus d'argent et ça va créer de manière cumulative un surendettement et une surconsommation. Et le consommateur va payer des frais qu'il ne voulait pas payer dans les cas de frais cachés ou va avoir une souscription qu'il ne voulait pas avoir. Et c'est tellement difficile d'annuler qu'il va la garder. C'est des conséquences négatives pour lui ou pour elle.
J'ai déjà essayé d'annuler un abonnement. On en parle puis ça vient me chercher parce que je me souviens, tu sais, quand ça fait trois fois que tu dis au commerçant que tu veux l'annuler, là, ça prend de l'énergie puis du temps, en effet.
Exactement, et parfois, on finit pour lâcher. Et au niveau social, on peut parler des avantages concurrentiels. S'il y a un commerçant en ligne qui utilise des interfaces truquées et un autre qui n'utilise pas des interfaces truquées, ça va créer une inégalité dans les marchés, un désavantage concurrentiel avec les conséquences négatives. Et pour les nouveaux joueurs, ce n'est pas sain pour les marchés.
Puis en fait, ça ne récompense pas ceux qui ont des pratiques, disons, plus morales.
Exactement, plus honnêtes. C'est ça les grands problèmes. On peut par exemple parler brièvement du problème de tipflation ou l'augmentation du pouvoir et la généralisation du pouvoir. On peut se demander, est-ce que les interfaces truquées ont quelque chose à voir avec cette augmentation du montant de pouvoir qu'on donne partout?
Oui, ça a été super simple pour les commerçants de créer une interface qui allait proposer des pourboires plus élevés. Là.
Exactement, et la réponse est probablement oui. C'est ça la cause de la tipflation ou l'augmentation de l'inflation liée au pourboire. Et naturellement, ça va avoir des affectations et particulières pour des populations particulièrement vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont littéralement des problèmes cognitifs. Ça va les affecter, les personnes qui sont très occupées, qui n'ont pas les temps à
gérer magasiner tout ça. Tant que ça, puis d'aller sur Protégez-vous.
Exactement. Ouais. Les personnes avec un niveau faible de scolarité, les personnes à faible revenu, ce n'est pas la même chose si je paye quelques frais de plus quand j'ai un bon revenu que si je suis à faible revenu. Les personnes qui apprennent une deuxième langue, imaginez-vous l'exemple de la double négation pour une personne qui est en train d'apprendre la langue. C'est vraiment confus. Et les personnes fatiguées. Et nous habitons maintenant dans une société de la fatigue. Et c'est aussi problématique. Alors, qu'est-ce que le consommateur doit faire? Et tout d'abord, essayer de changer les lois si possible. Parce que, par exemple, aux États-Unis, Et en Europe, il y a des formulations, des interdictions explicites des interfaces truquées, en tant qu'interfaces truquées. Au Canada, et on n'a pas encore à ma connaissance une régulation des interfaces truquées en général. C'est-à-dire, il y a des régulations, par exemple, sur les frais cachés, on les connaît bien dans la loi de la protection du consommateur, mais pas les interfaces truquées.
C'est comme si les interfaces truquées, on dirait qu'ils arrivent un peu de manière insidieuse à se faufiler au travers des lois qui sont déjà présentes au Canada.
Exactement. Et l'idéal, ça serait d'avoir une loi qui protège et bien et avec force les consommateurs et les consommatrices. Et finalement, si vous ne voulez pas être trompé, la chose la plus importante, c'est de rester attentif, rester à l'affût et essayer d'être le plus conscient possible, même si tout le monde tombe dans les interfaces truquées, les pièges, y compris moi-même.
Ben, merci beaucoup pour ton honnêteté, pour ton partage, Louis. C'est un plaisir. Puis au plaisir de te recevoir une prochaine fois sur le balado. On termine cet épisode avec une chronique de Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Allô, Joanne.
Allô, Marianne.
Tu veux nous parler des taux d'intérêt?
Oui, les taux d'intérêt, principalement ceux qui sont sur les cartes de crédit.
OK.
Peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué cet automne, quelques institutions financières ont commencé à envoyer des lettres à leurs clients pour leur signifier que les taux d'intérêt sur leurs cartes de crédit changeraient. On peut constater, là, c'est pas encore, peut-être pas toutes les institutions qui l'ont fait, mais il y a une vague dans ce sens-là qui est partie.
J'ai pas reçu ça encore, mais tu as eu des clients.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, une personne m'en a parlé parmi mes clients.
Ouais.
Moi-même, j'ai reçu une lettre pour me signifiant que le taux d'intérêt sur ma carte était pour hausser un peu. C'est pas un gros, ça hausse dépendamment, là, j'imagine, des institutions financières. Dans mon cas, moi, j'ai constaté une hausse de 1 %. C'est pas énorme, mais c'est là pareil. C'est là pareil.
Mm-hmm.
Et je voulais profiter de cette occasion-là, tu sais, pour parler aux consommateurs du fait que si vous avez des dettes sur votre carte de crédit, ben c'est une bonne idée de profiter de cette lettre-là, d'aller rencontrer peut-être votre institution financière qui pourrait vous proposer des solutions pour pouvoir baisser un petit peu votre niveau d'endettement.
C'est un très bon conseil de profiter de la lettre pour montrer qu'on est à nos affaires, on voit que le taux augmente, on regarde s'il n'y a pas un type de prêt qui pourrait nous permettre d'avoir de l'intérêt un petit peu moins élevé.
Exactement. Il faut savoir que sur une carte de crédit, en ce moment, en moyenne, c'est 19,9%, puis bientôt plus 20-21%, dépendamment de l'institution avec laquelle vous êtes. Si, par contre, vous avez cette même dette-là avec une marge de crédit, habituellement, les taux d'intérêt sur les marges de crédit qui sont attenantes à votre compte sont un peu moins élevés. Certaines institutions les appellent les lignes de crédit plutôt que les marges de crédit, juste pour pas semer de confusion.
Ouais, ça se peut que ce soit la même chose.
Hein. C'est la même chose. Et souvent, les taux d'intérêt sont un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, notre dette, on peut la rembourser plus rapidement. Puis elle croît, si on n'a pas la capacité de la rembourser en totalité, mais elle va grandir moins rapidement aussi, comme les taux d'intérêt sont plus bas. Fait que ça, c'est intéressant.
Oui, j'ai vu des situations aussi où le conseiller, au lieu de la marge de crédit ou de la ligne de crédit, il avait présenté plutôt le prêt personnel. Même si le taux d'intérêt était un petit peu plus élevé que la marge de crédit, si la personne elle a des habitudes de remboursement, des historiques de remboursement, ou tu sais, elle remet toujours un montant sur le prêt qu'elle a, ben le prêt personnel, contrairement à la marge ou à la carte de crédit, c'est une fois que tu as fait un paiement, tu peux pas remettre de l'argent dessus. Puis ça l'avait permis à la personne de comme regagner confiance en sa capacité de rembourser. Puis même si le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé, elle s'était enfin débarrassée de sa dette de carte de crédit.
Bien, tu sais, sur un prêt personnel, le taux d'intérêt va être un peu moins élevé
que
la carte de crédit. Peut-être une petite affaire plus que sur la marge de crédit, mais il est quand même entre les deux. Fait qu'il y a quand même un beau pas de fait.
Mm.
Puis oui, effectivement, même dans certains cas, de ce temps-ci, certaines marges de crédit peuvent avoir des intérêts variable selon le contexte du marché.
Oui.
Donc, le prêt va avoir un intérêt fixe. Le prêt personnel, en général, il va y avoir certains prêts. Il y a toutes sortes de produits. De produits, là, c'est pour ça
possibilités.
Que c'est important d'aller parler avec sa propre institution financière parce qu'il y a, il y a une grande gamme, une grande panoplie de produits d'emprunt qui sont suggérés à la clientèle. Mais très souvent, le prêt personnel, ça va être plus un taux d'intérêt qui est fixe. Vous savez quand vous commencez, vous savez quand vous finissez, puis vous savez exactement à chaque mois combien vous allez donner. C'est beaucoup plus facile à budgéter.
Oui, on parlait d'aspect un peu psychologique là, avec Louise juste avant, puis le fait de pouvoir se mettre des objectifs clairs, nets et précis avec une durée dans le temps. Mon professeur d'éducation physique du cégep serait content de ce que je dis en ce moment. C'est vraiment bon pour la psychologie. Pour la motivation.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis la persévérance. Ça garde notre motivation, puis ça nous aide aussi dans le temps, dans notre persévérance à pouvoir atteindre nos objectifs.
Bien, merci beaucoup, Joanne, d'avoir pris le temps pour parler de ce qui se passe présentement puis de nous donner des belles pistes de solutions. Je te dis à la prochaine parce qu'on va vraiment te revoir sur le balado.
Ça me fait plaisir. Je te souhaite, toi aussi, une belle continuation puis à très bientôt.
À très bientôt. À la maison également, bonne journée si vous avez ou bonne soirée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter le site de Options Consommateurs ou à aller voir nos réseaux sociaux. À la prochaine!